Aujourd'hui, nous parlons d'un autre sujet, mais véritablement extrêmement important pour cette approche de l'entreprise, c'est les transferts de technologie. Et notre conférencier est Didier Roux. Il est né en 1955. Il est ancien élève de l'école normale supérieure. Il est physicien et chimiste, agrégé de physique, puis docteur de troisième cycle, docteur d'État. L'originalité de sa carrière, et c'est pour ça que c'est très intéressant qu'il intervienne ici, c'est qu'il est à la fois un chercheur dans la recherche approfondie et en même temps un homme d'industrie et un homme de transfert justement de technologie. Il a été, je vous donne un peu une idée de son parcours, il a été donc attaché de recherche au CNRS, puis directeur de recherche, et il est actuellement directeur du centre de recherche Paul Pascal, mais il est en même temps, depuis 1997, il a été directeur scientifique adjoint de Rhône-Poulenc. Maintenant, il est du côté de, à la suite de la fusion et de la redistribution de Rhône-Poulenc, il est chez Rhodia, où il est membre du conseil scientifique et technologique. C'est donc à la fois un chercheur, si vous voulez, un chercheur de sciences dures, et en même temps un homme d'application et un homme d'entreprise. Il a reçu médaille de bronze du CNRS, puis médaille d'argent du CNRS, plusieurs prix importants, notamment de l'Académie des sciences. Il a aussi été créateur d'entreprises, puisqu'en 1994, il a été co-créateur de Capsulis SA, puis en 1996 de Caplim SARL, puis en 1998 de Réocontrol SA. Et comme je vous l'ai dit, il est maintenant membre du conseil scientifique et technologique de Rhodia. J'ajoute une chose qui est tout à fait... non pas personnel, mais pas du tout annexe, c'est qu'il nous a beaucoup aidé lors de la mise sur pied du programme de l'Université de tous les savoirs, notamment pour tout ce qui était recherche appliquée, nouveaux matériaux, en nous recommandant des questions et recommandant des intervenants qui interviendront à l'automne. Voilà, je lui donne la parole pour une cinquantaine de minutes et ensuite vous pourrez poser vos questions. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Michaud. Bien, alors, effectivement, quand vous m'avez demandé de parler de transfert de technologie, c'est un sujet sur lequel on peut dire tout et n'importe quoi. Je ne vais pas vous dire tout, j'espère ne pas vous dire non plus n'importe quoi. Je vais simplement essayer, et finalement, c'est le choix que j'ai fait basé sur mon expérience personnelle, donc essentiellement en abordant des sujets scientifiques que je connais bien, sur lequel j'ai travaillé, vous montrer comment, dans le domaine du transfert de technologie, on peut relier recherche fondamentale, recherche technologique et application industrielle. Le but essentiel de cette conférence est d'essayer de vous faire comprendre que les choses ne se passent pas comme elles sont souvent décrites, et sur des exemples précis que je vais décrire, essayer de vous convaincre que c'est un problème à la fois complexe et que si vraiment on voulait s'attaquer à ce problème-là dans sa mécanistique et de la façon dont on peut essayer d'améliorer ce problème de transfert de technologie qui est un vrai problème en France, eh bien je crois qu'il faut repenser un certain nombre de données fondamentales ou de schémas de pensée sur lesquels un certain nombre de personnes scientifiques et politiques se basent. Alors, le but... donc de cette conférence, c'est d'essayer d'illustrer des mécanismes de transfert de technologie par des exemples. Ça va être l'essentiel de cette conférence, et de ce point de vue-là, j'aurai un peu d'avance sur des conférences qui viendront, si j'ai bien compris, au mois d'août, qui concerneront la partie étude de la matière de la science, puisque vous verrez qu'une bonne partie de l'apport scientifique de cette conférence est basée sur l'étude de la matière et de ce qu'on appelle la matière condensée molle, c'est-à-dire des systèmes qui sont relativement désorganisés tout en montrant des structures. Alors, le second but de cette conférence, c'est justement de faire ressortir ces relations complexes entre recherche fondamentale et recherche technologique qui vont vers les applications industrielles. Et pour ça, je vais proposer trois exemples que je détaillerai tout au long de cette conférence. Alors, d'abord, le premier point, c'est qu'une vision tout à fait raisonnable du mécanisme de transfert de technologie serait certainement de se dire, eh bien, il y a des gens qui s'occupent de recherche fondamentale, c'est la partie essentielle qui consiste, on va la définir de façon extrêmement brutale, à essayer de comprendre le monde qui nous entoure, sur lequel on s'intéresse essentiellement à des problèmes qui n'ont pas forcément d'application, mais qui sont directement reliés aux questions que l'homme se pose. Et puis, basé sur cette recherche fondamentale, alors là, vous avez du mal à lire, il faut lire ce qui est vert, s'appelle recherche technologique, vous le reverrez relativement fréquemment, donc ce n'est pas la peine que, souvenez-vous que ce sigle que vous avez du mal à lire est associé à recherche technologique. Donc, basé sur cette recherche fondamentale, eh bien, on peut se donner des objectifs, et c'est comme ça que je définirai la recherche technologique, innover, il y a des difficultés, il faut innover pour atteindre un objectif appliqué. Vous voulez, je ne sais pas moi, des vitres qui ont une certaine qualité, qui changent de couleur avec le soleil. Vous ne savez pas comment le faire. Vous allez rechercher dans ce qu'on connaît en physique et en chimie de quoi fabriquer ces vitres. Vous allez faire de la recherche technologique. Vous allez avoir des obstacles à franchir. Et enfin, la troisième étape, qui paraît très logique, c'est de déboucher sur du transfert de technologie. C'est-à-dire qu'ayant franchi ces obstacles d'un point de vue de la recherche, à la fois avec la recherche fondamentale et la recherche technologique, eh bien, on pourrait mettre au point un produit qui déboucherait sur un marché. Donc ça, c'est évidemment une vision extrêmement satisfaisante, puisqu'on va payer des chercheurs fondamentalistes à faire avancer la connaissance. Ensuite, il y aura un monde d'interface entre le monde industriel et le monde public qui consistera à franchir des obstacles de recherche technologique, et enfin le monde industriel transférera l'ensemble de ses connaissances pour fabriquer des produits qui seront vendus et que vous achèterez d'une façon ou d'une autre. Alors, si les choses étaient aussi simples que ça, eh bien, je crois que tout le monde pourrait le faire, même les Français, il n'y a pas de raison. La réalité est que les choses sont beaucoup plus complexes et que justement le propos que je vais essayer de tenir et essayer de faire des efforts pour vous convaincre, c'est que justement si on part sur cette idée-là, ça ne marche pas parce qu'il y a des constants allers-retours entre le but appliqué tout au bout, faire un produit, et la recherche fondamentale. Et je vais le faire sur des exemples. Donc la question que je pose, c'est finalement dans quel ordre faut-il mettre recherche technologique, transfert de technologie et recherche fondamentale pour essayer d'être plus efficace dans ce transfert de connaissances qui va effectivement de la science fondamentale vers les produits qui sont sur le marché. Et vous allez voir qu'en fait, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de généralité et que chaque cas est un cas particulier, que surtout, il ne faut pas faire de blocage sur aucun de ces aspects qui passent de la recherche fondamentale au transfert de technologie. Alors, je vais vous donner trois exemples. Le premier consiste à vous parler de thérapie génique, alors pas de façon très générale, mais essentiellement sur la mise au point de vecteurs non viraux. On verra à ce moment-là que c'est un enjeu médical très important et qu'il faut faire de la science fondamentale pour réussir, si on y réussit, puisque pour le moment, dans le cas des vecteurs non viraux, il n'y a pas de réel succès. Si on réussit un jour à fabriquer un vecteur non viral à but thérapeutique, le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est celui des micro-émulsions et de leurs applications. On verra qu'à partir d'une découverte accidentelle dans un laboratoire fondamental, couplée à un intérêt industriel très fort, il y a eu finalement beaucoup moins d'applications qu'on pensait, mais énormément de recherches fondamentales de fait, et que le tout a quand même fait progresser pas mal certains domaines de l'industrie. On verra enfin, comme troisième exemple, qu'un problème purement fondamental au départ a débouché sur deux transferts de technologie, l'un dans le domaine de l'encapsulation, l'autre dans le domaine de l'instrumentation, et a été à la base de la création de jeunes entreprises high-tech qui existent depuis quelques années. Et là encore, on essaiera de comprendre le mécanisme qui permet de passer de l'un à l'autre. Alors, on va commencer par la thérapie génique. Alors, évidemment, je vais commencer par des choses qui ont été dans l'actualité il y a de cela quelques jours ou quelques semaines. Il y a eu un récent succès, et je dirais qu'il était temps qu'il y ait un succès dans ce domaine-là, parce qu'il y a eu de nombreux échecs, en particulier l'année dernière a été une année très difficile pour la thérapie génique. J'y reviendrai brièvement. Toujours est-il qu'il y a eu un récent succès, qui plus est par une équipe française, où des jeunes enfants ont pu, ce qu'on appelle des enfants bulles, ceux qui ont des déficits immunitaires importants qui les empêchent d'être au contact du monde qui les entoure, on a pu corriger ce déficit immunitaire par une technique de thérapie génique, qui est une technique que l'on appelle ex vitro, c'est-à-dire qu'on a pris des cellules de ces enfants, on les a modifiées, on a modifié leurs gènes, on a réintroduit à l'intérieur de ces cellules des gènes manquants qui synthétisaient la protéine ou des protéines qui manquaient pour les fonctions de réponse immunitaire de ces enfants. On a réinjecté ensuite ces cellules modifiées chez ces enfants, elles se sont multipliées et suffisamment pour que maintenant leur défense immunitaire soit au niveau nécessaire pour pouvoir vivre normalement. C'est un acquis extrêmement important. C'est clair qu'on voit là la puissance, parce qu'on n'a pas d'autres moyens pour soigner ce type de maladie, et ça ouvre des perspectives extrêmement importantes en thérapie. Alors, pour essayer de comprendre un tout petit peu, et le minimum de choses que je vais vous donner comme information, c'est ce qu'il faut, une fois de plus, le but c'est de comprendre les mécanismes de transfert, c'est pas d'amener des éléments scientifiques, mais ceci dit, ça va se faire à travers ces éléments scientifiques. Alors, quelques mots sur la thérapie génique en particulier, et son application par des vecteurs non viraux par la suite. Alors, bon, il est clair qu'une cellule, vous les voyez ici, c'est un objet extrêmement complexe, c'est une véritable usine qui fait des tas de choses, mais le point important dans ce qui nous occupe, c'est que vous voyez ici une cellule qui a été colorée, où on a coloré la membrane, donc ce qui correspond aux phospholipides, mais qui correspond à ce qui définit, disons, l'entourage, et comme vous voyez aussi un peu l'intérieur d'une cellule, en vert, et puis on a coloré l'ADN, la partie génétique, l'acide désoxyribonucléique, en bleu. Et vous voyez que le noyau est localisé au centre de cette cellule. Et le point important, c'est qu'un médicament, et vous voyez mal ici parce que ce n'est pas très net, mais essentiellement, agit sur les protéines. C'est-à-dire qu'une cellule, le message pour fabriquer une protéine est donné par le message génétique, l'ADN, puis ensuite il y a une transmission à travers du noyau vers le cytoplasme par l'ARN, et qu'on appelle donc messager de ce point de vue-là. Et enfin, la protéine est synthétisée dans le cytoplasme, mais c'est l'ADN qui donne l'ordre de synthétiser la protéine, et la nature de la protéine est codée par cet ADN. Alors, la plupart des médicaments, et ce que font toutes les entreprises pharmaceutiques, c'est qu'ils cherchent des molécules qui s'allient ou touchent la fonction de la protéine. Typiquement, on cherche des molécules qui viennent toucher la protéine, et une molécule efficace est une molécule qui, d'une façon ou d'une autre, modifie l'action de la protéine en s'y liant chimiquement. Alors, l'idée de la thérapie génique, c'est justement de ne pas agir directement sur la protéine, mais d'agir sur l'ADN, et donc de ne pas suivre toute cette chaîne, de ne pas travailler sur le bout de chaîne, mais de partir du cœur, c'est-à-dire donc du gène. Alors, il est évident que les applications les plus naturelles de la thérapie génique, c'est les maladies génétiques. Je viens d'en illustrer un exemple tout à l'heure en parlant de ces enfants bulles. Mais il est clair aussi, et je ne vais pas rentrer dans les détails, que ce type de stratégie thérapeutique dépasse de beaucoup les maladies génétiques et peut toucher le cancer, les maladies cardiovasculaires, bien évidemment la vaccination, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions ou des grandes maladies sur lesquelles on se penche. Donc la thérapie génique n'est pas uniquement développée pour guérir les maladies génétiques, elle peut être aussi développée pour guérir le cancer ou d'autres maladies qui ne sont pas forcément d'origine génétique, en tout cas pas complètement d'origine génétique. Alors, le principe, c'est d'introduire donc un gène dans une cellule, un gène qui au départ n'y est pas, qui est soit manquant dans le cas d'une maladie génétique, soit alors que l'on veut amener pour faire une fonction spécifique. Les difficultés, c'est que l'ADN est une molécule fragile, qui en général, dans un milieu biologique, est découpée, il y a tout un tas d'enzymes, dont les DNAs, dont le travail est justement de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'ADN qui se promène de façon non contrôlée. Et de plus, l'ADN en tant que molécule ne rentre pas spontanément dans une cellule et donc ne va pas à sa cible pour être efficace, c'est-à-dire à l'intérieur du noyau. Donc, à part quelques cas tout à fait exceptionnels, l'ADN, en fait, tout seul, si on injecte de l'ADN à quelqu'un, cet ADN ne se retrouve généralement pas dans le noyau des cellules et donc n'est pas fonctionnel. Donc, la réponse à cette difficulté, c'est d'utiliser des véhicules, une stratégie qui va permettre à cet ADN de rentrer à l'intérieur des cellules. Alors, il y en a deux. La première qui a été largement utilisée, c'est d'utiliser des virus synthétiques. Alors, synthétiques parce que ce sont des virus qui ont été modifiés par, évidemment, des actions biologiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un virus ? Un virus, vous en voyez l'image d'un virus ici, c'est essentiellement des morceaux d'ADN ou un petit morceau d'ADN à l'intérieur d'une capsule Cette capsule étant essentiellement faite de phospholipides et de protéines, donc c'est la version absolument minimum d'un véhicule pour transporter de l'ADN. Et les protéines et les phospholipides servant de véhicule à faire passer cet ADN justement à travers les défenses des cellules et protéger l'ADN, entre autres de l'ADNase, et donc répondre aux deux fonctions qui permettent de faire passer l'ADN à l'intérieur des cellules. Alors ça, c'est ce qu'ont fait les virus naturellement. L'idée de faire des virus synthétiques, c'est de dire j'ôte la partie ADN du virus qui ne m'intéresse pas et qui est dans certains cas nuisible, et je la remplace par le bon ADN, celui que je veux injecter, et donc je modifie ce virus, mais par contre je lui mets dedans, une stratégie de type cheval de Troie, ce que j'ai envie de faire rentrer à l'intérieur du noyau. Donc disons par exemple l'ADN qui répare ou qui permet de resynthétiser une protéine manquante dans une maladie génétique. Alors, le gros avantage de cette technique, c'est qu'elle fonctionne. Il a été prouvé maintenant depuis de nombreuses années que lorsque l'on fait ça, effectivement l'ADN se retrouve exprimé à l'intérieur des cellules. Il y a cependant deux grands problèmes avec cette technologie. Le premier, c'est la réponse immunitaire, c'est-à-dire que vous introduisez des virus à l'intérieur du corps et que le corps a tout un système de défense pour empêcher justement ces virus de rentrer. Donc c'est évidemment la réponse immunitaire normale de l'être humain. Ceci dit, ça peut déclencher dans certains cas des réactions extrêmement importantes, et c'est probablement ces réactions qui ont donné lieu l'année dernière à l'arrêt quasiment total de tous les essais de thérapie génique en phase 2, puisque, comme vous le savez, il y a eu des décès dans des conditions qui n'étaient pas très très claires aux États-Unis, et donc les essais de thérapie génique qui étaient en cours ont été, si ce n'est complètement arrêtés, tout au moins sous surveillance forte, entre autres à cause de ce problème de réponse immunitaire. Alors, je répète que c'est un peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure avec les bébés bulles, où là, le traitement ayant été fait à l'extérieur du corps, le problème de la réponse immunitaire se pose beaucoup moins. Il y a un autre problème avec cette stratégie de faire des virus synthétiques, c'est que produire de façon industrielle contrôlée des virus en quantité suffisante n'est pas quelque chose de très facile. Et donc, il y aura de toute façon des problèmes de production, de contrôle. C'est un objet biologique complexe et la production industrielle n'en est certainement pas quelque chose d'aisé à dominer. Alors, par rapport à ça, excusez-moi, je reviens juste à la fin. Par rapport à ça, il est clair que la stratégie, c'est de fabriquer des vecteurs artificiels, cela complètement construit avec les pièces détachées que l'on peut fabriquer par synthèse chimique, et que l'on peut contrôler d'un point de vue industriel bien mieux, et donc de faire des virus artificiels. Alors le problème, c'est que ça marche assez bien dans les essais in vitro, donc quand on met les cellules en contact avec ces virus artificiels, le résultat est que les choses marchent assez bien. Par contre, les résultats sont assez décevants in vivo, c'est-à-dire directement appliqués aux animaux ou à l'homme, et pour le moment, les degrés de fonctionnement ou de succès de ces vecteurs artificiels n'arrivent pas du tout à la hauteur des virus synthétiques et ne répondent pas, d'un point de vue des applications médicales, aux objectifs qu'il faut se fixer pour arriver à guérir telle ou telle maladie. Alors, qu'est-ce que sont ces vecteurs non viraux ? Donc l'idée, c'est d'associer des molécules, dont une molécule est l'ADN. L'ADN, c'est un polyélectrolyte, c'est-à-dire c'est une molécule, un polymère qui est chargé négativement, à d'autres molécules pour essayer de le compacter, lui donner à peu près les qualités que l'on retrouve chez un virus. On a essayé, évidemment, par essai-erreur, des tas de molécules, en particulier des molécules cationiques, parce que comme l'ADN est chargé négativement, l'idée de mettre d'autres molécules qui sont chargées positivement crée une association électrostatique assez évidente. Et dans toutes les molécules essayées, actuellement, la situation est qu'il n'y a que deux grandes classes de molécules qui marchent bien. Ce sont les phospholipides cationiques, donc on va y revenir tout de suite, donc des phospholipides qui ont une tête polaire cationique et qui s'associent avec l'ADN, et puis un certain nombre de polymères cationiques qui donnent des résultats intéressants. Comme je vous l'ai dit, ces molécules associées à l'ADN ont montré un certain succès pour des applications in vitro. Par contre, les applications in vivo, pour le moment, laissent à désirer au niveau des résultats. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un phospholipide cationique, puisque c'est un peu le propos de ma conférence? Un phospholipide cationique, c'est une molécule qui a une partie qui est une chaîne aliphatique, c'est-à-dire finalement un peu comme de l'huile, hein, comme un alcane, comme quelque chose qui ressemble beaucoup à de l'essence que vous mettez dans votre voiture. Cette partie-là, évidemment, est soluble dans l'huile. Et puis, vous avez une tête polaire, quelque chose qui fixe, finalement, on l'a vu pour tout à l'heure, le côté cationique de la molécule, qui est soluble dans l'eau. Et donc, vous avez un système qui, lorsqu'il est mis en présence d'huile et d'eau, c'est pour ça qu'on appelle ça des molécules tensioactives, eh bien, se fixe naturellement à l'interface entre l'eau et l'huile et forme des films dits lipidiques qui protègent l'eau ou séparent l'eau de l'huile. L'autre propriété de ces systèmes, c'est lorsque on les met dans l'eau, ils s'auto-associent, même s'il n'y a pas d'huile, en mettant leur partie hydrophobe, la partie qui n'aime pas l'eau, cette partie donc qui correspond à ces chaînes aliphatiques, ensemble. Et vous pouvez obtenir tout un tas de structures qui sont obtenues simplement en mettant ce type de molécule dans l'eau. Vous pouvez obtenir des structures en cylindre, vous pouvez obtenir des structures en lamelles, vous pouvez obtenir des structures en sphère, et ça dépend de la géométrie des molécules et de leur concentration. Donc ces molécules, c'est-à-dire la classe de molécules de tensioactifs, organisent un peu l'espace en faisant des objets. Dans le cas des phospholipides cationiques, ils ont donc cette tête cationique qui nous intéresse pour les applications avec l'ADN. Donc lorsque l'on met en contact de l'ADN, qui est donc une sorte de long bâton avec une double hélice chargée négativement, avec des phospholipides cationiques, eh bien, on a vu qu'il y avait un certain succès, ça a aidé à faire passer l'ADN à l'intérieur de la cellule. On s'est très vite posé la question, quelle est la structure de cet agrégat, comment s'associe finalement cet ADN avec ce phospholipide cationique. Alors, il y a eu un certain nombre d'hypothèses. L'idée, c'était que le fil d'ADN, on peut voir ça comme un petit fil mince, eh bien, il y avait des vésicules de phospholipides qui venaient se mettre comme des perles sur ce fil. Ça a été une hypothèse qui a été longtemps proposée. D'autres personnes ont proposé qu'il y avait une réorganisation de ces vésicules et que ça faisait une sorte de tuyau qui protégeait cette molécule d'ADN et l'enveloppait. Et c'était cette enveloppe, cet ADN enveloppé qui passait la barrière des cellules. En fait, ce sont des physiciens qui, relativement récemment, en particulier un groupe de Santa Barbara qui est dirigé par Cyrus Safinia, qui ont pu montrer, il y a quelque temps, que le système était complètement différent. On faisait en fait des espèces d'associations sous forme de gâteaux napolitains, une sorte de phase lamellaire où vous aviez des couches, où l'ADN se mettait entre les couches sous forme de bâtons bien organisés et les couches de phospholipides séparaient ces plans d'ADN bien organisés. Vous avez ici, vous le voyez mal, une photo de microscopie électronique et vous voyez ces petits agrégats qui font environ 200 nanomètres qui sont en fait des petits agrégats compacts où l'ADN se retrouve entre des feuillets lamellaires dans des objets qui sont essentiellement des petits colloïdes qui sont en suspension dans l'eau. Alors ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que cette association est tout à fait originale en physique. C'est-à-dire le fait de déboucher sur des systèmes où vous avez des bâtons, qui sont donc ces molécules d'ADN, coincées dans des plans, pose des problèmes de physique fondamentale tout à fait intéressants. Je ne vais pas rentrer dans les détails et je ne vais pas vous en parler réellement. Sachez simplement que la façon dont ces bâtons sont positionnés dans l'espace pose des problèmes de physique, en particulier de physique bidimensionnelle, qui sont tout à fait intéressants et qui, évidemment, n'ont absolument rien à voir avec l'application visée au début de la thérapie génique et qui donne lieu actuellement à des réflexions à la fois expérimentales et théoriques sur ces systèmes bidimensionnels de bâtons confinés entre des membranes lamellaires. Alors, le but, c'est de se dire, maintenant on a à peu près compris quels sont ces agrégats, et vous avez vu que ça, c'était de la recherche fondamentale qui débouche, y compris sur des questions de physique. La question, c'est comment faire pour améliorer le système, puisqu'on a vu que ça marchait bien in vitro, mais ça ne marche pas in vitro. L'idée, c'était que la raison pour laquelle ça ne marche pas in vivo, c'est qu'on avait des petits agrégats cationiques, et que les petits agrégats cationiques se liaient très rapidement dans l'environnement proche du site d'injection, avec les surfaces des cellules, les protéines qui étaient négatives, et donc ne diffusaient pas à l'intérieur du corps, ou allaient se fixer à des endroits très spécifiques. Donc l'idée, c'était de supprimer le caractère cationique total de ces petits agrégats, mais si on fait ça, du coup, le système n'est plus stable, précipite et ne peut plus se mettre en suspension dans l'eau. Donc l'idée sur laquelle sont partis un certain nombre d'équipes, c'est de rajouter des cheveux donc à ces petits agrégats lamellaires, ces cheveux étant essentiellement des polymères dont le but est de stabiliser ces objets colloïdaux, même s'ils ne sont plus cationiques. Et donc c'est la voie vers laquelle actuellement les gens se dirigent pour essayer d'aller un peu plus loin vers des virus synthétiques. Alors je voudrais arriver à ce point sur la première partie de cette conférence, résumer un peu la démarche qui a été faite, justement d'un point de vue recherche technologique, recherche fondamentale et transfert de technologie. Il est clair qu'au début, la démarche, c'était de fabriquer des virus artificiels en essayant un grand nombre de molécules. Étudier celles qui fonctionnent et se dire, bon, ce sont des bons systèmes. C'est typiquement une démarche de type recherche technologique. On a un but précis, on va chercher dans ce qu'on connaît qu'est-ce qui peut marcher, on essaye et on essaye de faire avancer les choses. On a vu au passage qu'il a fallu caractériser et comprendre les structures. C'est typiquement de la recherche fondamentale, c'est indépendant du but visé et on a pu déboucher sur des problèmes de physique intéressants, en particulier sur ces nouvelles phases de bâtons confinées dans les phases lamellaires, qui posent des problèmes en physique et pas du tout en biologie, mais c'est en partant de ce problème biologique que ces phases-là ont été découvertes et n'ont jamais été découvertes par des physiciens dans le cadre des questions qu'ils se posent au niveau fondamental. Donc la deuxième partie est certainement une partie de recherche fondamentale. Enfin, la compréhension qu'on en a eue permet de rebondir au niveau recherche technologique en rajoutant et compliquant le système, parce qu'ayant compris comment il fonctionne, on peut revenir à essayer de franchir le dernier obstacle, qui est le fonctionnement in vivo de ces vecteurs. Et donc, de nouveau, on revient à la recherche technologique. Il reste, lorsqu'on aura trouvé un système qui marche, à faire une étape de transfert de technologie, ça passera par l'industrialisation du système, et à ce moment-là, éventuellement, en faire un médicament complètement synthétique en thérapie génique. Donc, vous voyez déjà que sur cet exemple-là, les allers-retours sont loin d'être évidents et la première proposition que j'avais faite sur la démarche linéaire, fondamentale, technologie, puis transfert, n'était pas évidente. Alors, nous allons passer maintenant aux micro-émulsions. Alors, dans le cadre des micro-émulsions, la situation est complètement différente. Au départ, c'est de la recherche fondamentale, c'est une découverte accidentelle. Quelqu'un, je crois que c'était Schulman dans les années 40, s'intéressait à fabriquer des émulsions. Pour faire une émulsion, c'est exactement pour vous comme faire une mayonnaise, il faut mettre de l'eau, de l'huile, une molécule tensioactive, je ne reviendrai pas sur ce qu'est une molécule tensioactive, qui dans son cas était ce qu'on appelle des savons, donc des molécules que vous trouvez en général dans des détergents, et puis vous agitez le tout et vous faites quelque chose qui ressemble à une mayonnaise et qui correspond à ce mélange d'eau et d'huile qui est à peu près homogène, mais qui correspond à un certain nombre de défauts, en particulier un système très visqueux. Et quand il voulait nettoyer ces pots dans lesquels il fabriquait ses émulsions, ben, il était un peu embêté, il consommait beaucoup de solvants, puis il travaillait avec des huiles qui n'étaient pas faciles, sur lesquelles il n'était pas facile de se débarrasser. Et il a une idée, qui est typiquement une idée de chimiste, il se dit, je vais rajouter un peu d'alcool. Pourquoi de l'alcool? Parce que l'alcool, ça sert à dissoudre à la fois l'eau et l'huile, et donc ça va me permettre de nettoyer mes récipients. Alors c'est ce qu'il a fait, il a rajouté un petit peu de butanol. Et là, il a eu une grande surprise, c'est qu'en mettant très très peu de butanol, pas une grande quantité, très très peu, quelques gouttes, le système qui était un peu sous la forme d'une mayonnaise est devenu complètement liquide, complètement limpide et légèrement bleuté. Et il avait sous les yeux un mélange pratiquement homogène, ou qu'il considérait comme homogène, d'eau et d'huile qui avait à peu près la viscosité de l'eau. Et il a appelé ça des micro-émulsions parce que ça se différenciait assez nettement des émulsions qu'il était en train de séparer, qui étaient blanchâtres, qui étaient visqueuses et qui avaient des propriétés assez différentes. Donc ça, c'était au début des années 40. Alors si on fait un rapide historique de ce qui s'est passé, pendant pratiquement 30 ans, c'est resté une curiosité de laboratoire. Les micro-émulsions étaient décrites par quelques-uns, et c'était lorsqu'on mettait un peu de butanol dans certains mélanges, bien choisis, on obtenait ce mélange d'eau et d'huile limpide, mais on ne savait pas très bien ce que c'était. Et puis, dans les années 75, pour une raison qui va être évidente tout à l'heure, mais tirée essentiellement par l'industrie pétrolière, il y a eu un très fort intérêt sur essayer de comprendre ce qu'étaient ces systèmes de micro-émulsion. Et pratiquement entre 1980 et l'an 2000, ce que l'on a vu, c'est un énorme intérêt fondamental pour l'étude de ces systèmes. Je vous donnerai quelques éléments de cela. Et plusieurs applications qui ont débouché, mais pratiquement aucune relevant de l'industrie pétrolière qui a été à la base du développement fondamental. Alors, pour essayer de comprendre ça, je vais essayer de passer assez vite, et c'est un peu difficile, sur ce qu'est la physique statistique, et je suis obligé de vous donner quelques éléments là-dessus, de façon extrêmement simple, pour qu'on comprenne l'enjeu fondamental de l'étude des micro-émulsions. Alors, d'un point de vue théorique, enfin, ou disons de la pédagogie, la physique statistique s'intéresse à l'étude des objets en interaction. Alors, pas de n'importe quel objet, c'est l'étude des objets tout petits, des atomes ou des molécules. Et essentiellement, cherche à décrire le comportement d'un ensemble d'atomes ou d'un ensemble de molécules en interaction. Alors, l'histoire, et c'est parti avec Boltzmann à la fin du 19e siècle, montre qu'on s'est d'abord intéressé à l'étude des particules en interaction de type molécules ou atomes, qui sont essentiellement des tout petits objets, comme des points, qui sont en interaction dans l'espace. Et ce qu'on a compris d'années d'études et de descriptions théoriques, c'est que finalement, quand vous avez une des molécules en interaction, il y a deux choses qui sont en compétition. Il y a la température, qui a envie que ces molécules se dispersent dans l'espace, et il y a les interactions entre les molécules qui ont envie que ces molécules se regroupent entre elles. Et cette compétition vous donne ce qu'on appelle des transitions de phase, le fait que vous puissiez passer du gaz au liquide au solide en changeant la température. Le gaz, c'est quand la température domine, le système a envie de prendre tout le volume qui lui est offert, c'est, l'interaction devient négligeable. Le solide, c'est au contraire quand l'interaction domine, le système se range gentiment dans des systèmes extrêmement ordonnés, et le liquide est cette matière intermédiaire où l'interaction et la température sont en compétition, et vous avez un système qui est à la fois condensé et pour autant désordonné. Alors, une fois que a été étudié, ou que vous avez compris à peu près le problème des particules en interaction, donc on va, d'un point de vue mathématique, les particules ce sont des points, eh bien, un certain nombre de problèmes de physique statistique s'intéressent aux lignes. Alors, à quoi correspond dans la réalité des lignes? C'est par exemple les polymères. Un polymère, effectivement, est une longue molécule qui peut être décrite dans l'espace comme une ligne. Et de même, depuis un peu plus récemment, mais c'est parti dans les années 40, en particulier avec quelqu'un comme Flory qui a fait énormément de travaux sur les polymères, on a compris que la physique des polymères pouvait être décrite comme la physique de lignes en interaction. L'énorme avantage des lignes en interaction, ou l'énorme complexité des lignes en interaction par rapport à celui des particules, c'est qu'une ligne, vous pouvez aussi la trimballer dans l'espace comme une particule, si je prends ce qui représente cette ligne, mais elle peut aussi changer de configuration, c'est-à-dire qu'une ligne peut, à des degrés de liberté interne, elle peut changer de forme sans forcément que son centre de gravité ne bouge. Ceci complique et enrichit la description d'une ligne en interaction dans l'espace. Eh bien, il reste un grand problème sur lequel les gens ont travaillé, et contrairement au cas des points et des lignes, il n'existe pas de solution universelle, c'est celui des surfaces. Si vous prenez une surface, comme pour une ligne, la surface, ou comme pour un point, la surface peut se déplacer dans l'espace, elle peut, comme pour une ligne, changer de configuration, mais elle peut faire des tas d'autres choses que ne fait pas une ligne, par exemple. Dans une surface, vous pouvez faire un trou, je fais un trou dans la surface, et ayant fait un trou dans la surface, j'ai toujours une surface. Quand j'ai fait un trou dans une surface, j'ai changé la topologie de la surface, et ces changements de topologie d'une surface donnent une complexité supplémentaire sur l'étude de cette compétition entre température et interaction spécifique au cas des surfaces. Alors, ces problèmes-là sont des problèmes de physique statistique relativement fondamentaux, mais comme vous allez le voir dans le cas des surfaces, ils ont un rapport direct avec les microémulsions. Alors, revenons à nos microémulsions, et je laisse de côté cet aparté sur la physique statistique. Pourquoi est-ce que, après 20 ou 30 ans d'intérêt relativement médiocre sur les microémulsions, vers la fin des années 70, les gens se sont mis à s'intéresser aux microémulsions? Eh bien, la raison est très claire, c'était la crise pétrolière. Vous avez ici le cours de la bourse, le cours du prix du pétrole en fonction du temps. Vous voyez qu'après ça, on est au 19e siècle. Bon, le prix a rapidement baissé une fois qu'on a su produire le pétrole et le trouver. Et on est arrivé à un prix qui, pratiquement depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la fin des années 70, n'avait pratiquement pas bougé, était autour de 15 ou 20 dollars le baril. Et puis, lié à la crise pétrolière, je pense que vous avez tous ça en tête, si vous vous replacez en 73 ici, vous voyez que le prix du pétrole monte exponentiellement. Partant de 15 dollars le baril, on arrivait au début des années 79 à 50 ou 55 dollars le baril. Et il est clair que ce prix de pétrole justifiait à l'époque des recherches très importantes pour exploiter au mieux les réserves pétrolières mondiales. Il fallait optimiser la récupération du pétrole, et cette montée de prix permettait de se lancer dans des travaux, y compris qui déboucheraient sur des technologies relativement coûteuses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réserve de pétrole ? Géographiquement, vous trouvez le pétrole très proche généralement de nappes d'eau, et vous creusez un trou, et puis vous avez un premier temps où le pétrole jaillit tout seul, hein, c'est Lucky Luke et les Derrick que vous voyez, Et puis, évidemment, vous pouvez pomper. Si vous allez dans les Landes, vous verrez qu'il existe encore des pompes, qui ramènent un peu de pétrole comme ça. Toujours est-il que lorsque vous faites ça, vous récupérez 20 à 30% du pétrole qui est dans la nappe. C'est-à-dire qu'entre ce qui sort naturellement et ce que vous pompez, vous êtes à peu près au maximum 20 à 30% de pétrole récupéré. Donc 80% du pétrole reste à l'intérieur du sol. Alors ce que vous pouvez faire après, c'est de vous dire, ben, j'ai de l'eau à côté, je vais pousser le pétrole avec de l'eau, vous installez une station de pompage, et vous pompez l'eau et poussez dans le pétrole. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que l'eau très rapidement trouve un chemin privilégié, ressort par le trou de votre dérive, bien sûr, et qu'avec ça, vous en récupérez un peu, y compris avec de la vapeur d'eau, parce que vous sophistiquez un peu de la technique, mais vous pouvez espérer au mieux aller jusqu'à 40 ou 50%. Donc, dans un puits de pétrole, vous ne récupérez qu'une fraction du pétrole, et il reste plus de la moitié du pétrole qui ne peut pas sortir naturellement. Donc, les gens ont essayé de comprendre pourquoi. La raison microscopique pour laquelle le pétrole reste piégé est essentiellement due à ce qu'on appelle la tension superficielle, c'est-à-dire que l'eau et le pétrole, lorsqu'ils sont en contact, vous développez une interface et ça coûte très cher en énergie que d'essayer de bouger ou de déformer la gouttelette d'huile dans de l'eau. Du coup, l'huile reste accrochée sur sa roche et ne se disperse pas, même sous forme de petites gouttelettes, dans l'eau. La tension superficielle de l'eau et de l'huile est typiquement de 10 à 20 millinewtons par mètre, et l'énergie qu'il faut, qui est proportionnelle à la surface pour disperser cette huile dans l'eau, est trop importante pour que ça marche dans le cas du pétrole avec l'énergie mécanique que vous pouvez obtenir. Les microémulsions, par contre, ont une propriété extrêmement intéressante, c'est qu'ils abaissent la tension superficielle d'un facteur 10 000. Au lieu d'être à 10-20 millinewtons par mètre, vous tombez sur des ordres de grandeur de l'ordre de 10-3. Et du coup, avec très très peu d'efforts mécaniques, l'huile se disperse très facilement dans l'eau et ça vous permet, en quelque sorte, de nettoyer la roche. Donc, les gens se sont mis à s'intéresser aux microémulsions essentiellement parce qu'ils avaient cette propriété de laver une roche et d'être capable de faire sortir du pétrole des quantités bien plus importantes qu'avec simplement de l'eau. Alors, si on veut aller assez vite sur ce qu'on a appris en travaillant, alors là, d'un point de vue très fondamental sur les microémulsions, il faut comprendre ce petit diagramme. Alors, ce petit diagramme, c'est essentiellement la quantité de tension active pour faire une microémulsion avec, par rapport à la quantité d'eau et la quantité d'huile qu'il vous faut. Alors, vous voyez, sur cet axe-là, l'axe horizontal, ici, vous avez de l'eau pure, ici, vous avez de l'huile pure, et au milieu, vous avez un mélange de moitié d'eau, moitié huile. Et puis, quand vous mettez du tension actif, si vous en mettez bien et si vous le choisissez bien, choisir bien, c'est important dans ce cas-là, eh bien, vous arrivez à faire une microémulsion, c'est-à-dire quelque chose qui est homogène, qui est un mélange d'eau et d'huile, et qui a cette propriété d'avoir une tension superficielle avec l'eau et l'huile très très basse. Ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque vous ne mettez pas assez de ce tensioactif, vous avez un certain nombre d'équilibres, et il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est celui du milieu, qui est montré ici par un équilibre qui correspond à trois phases, où vous avez la microémulsion en vert, qui est en équilibre avec de l'huile pure au-dessus et de l'eau pure en bas. Alors, pourquoi cet équilibre est intéressant ? Parce que vous voyez que dans le cadre d'une application industrielle vis-à-vis du pétrole, eh bien vous allez, la roche où il y a l'huile va être ici, la microémulsion, vous allez la mettre comme un bouchon entre l'huile et l'eau, et vous allez pousser avec de l'eau. Et donc l'idée, c'est que si vous mettiez un bouchon de microémulsion qui est en équilibre avec l'huile et l'eau, et en poussant l'eau, vous allez nettoyer votre roche. Ce qui est intéressant, c'est que cette phase microémulsion qui correspond à ce point rouge d'un point de vue du diagramme, eh bien, d'un point de vue industriel, elle a une certaine quantité de tensioactif, et ce que vous voulez faire industriellement, c'est abaisser au maximum la quantité de tensioactif qu'il vous faut, parce que c'est l'élément cher de votre procédé. Ce qui va vous coûter cher, c'est de mettre du tensioactif. Donc cette quantité de savon qu'il va falloir mettre pour faire la microémulsion, il faut essayer de la minimiser, d'en mettre le moins possible, c'est le but industriel visé. Alors au passage, les chercheurs qui ont travaillé dans ce domaine-là ont appris tout un tas de choses, entre autres, ce qu'était la structure d'une microémulsion. Je vous ai parlé que Shulman appelait microémulsion parce qu'il pensait qu'il y avait des petites gouttelettes d'eau dans l'huile. En fait, il s'avère qu'une microémulsion n'est pas faite de petites gouttelettes d'eau dans l'huile. C'est une structure qu'on appelle une structure bicontinue. Alors, pour vous donner une image simple, c'est une éponge. En fait, c'est une éponge où l'huile serait l'éponge et l'eau qui remplirait l'éponge de l'eau. Donc, vous avez une structure en éponge où sont mêlés des domaines d'eau et d'huile. Et le point important, c'est que cette structure en éponge qui est faite avec de l'huile et de l'eau en contact est évidemment recouverte d'un film de tensioactif qui vient, entre guillemets, protéger la partie huile et l'eau de ce voile. Et c'est pourquoi il vous faut du tension actif pour faire une micro-émulsion. Ce qu'on a appris d'un point de vue fondamental à cette époque, et le mérite en revient très largement à Pierre-Gilles de Gennes, qui a été le premier à suggérer cette hypothèse, c'est que en fait, la quantité minimum de tension actif qu'il faut pour faire une micro-émulsion, donc cette quantité qui est très importante industriellement, puisqu'elle va vous fixer le prix de votre technologie, eh bien, elle dépend en fait d'une longueur caractéristique, qu'il a appelée longueur de persistance, qui vient d'une compétition entre l'énergie élastique du film de tension actif que vous mettez entre votre olive, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il vous faut pour courber ce film, et la température, ou l'énergie associée à la température, c'est-à-dire au fait que votre système est en train de fluctuer comme le feraient des particules browniennes. Pour une surface, ce sont des ondulations plus que du mouvement brownien. Et donc, cette longueur de persistance, qui est une fonction très importante du rapport entre l'élasticité et l'énergie thermique, eh bien, c'est ça qui règle la quantité de tension actif. Et la règle, c'est que plus le système est rigide, plus cette interface a du mal à être pliée, moins il va vous falloir de tension actif. Et ce résultat, qui est un résultat qui a pu être démontré expérimentalement plusieurs fois, est à la base de l'optimisation des micro-émulsions, c'est-à-dire du fait de trouver le minimum de tension actif qu'il faut pour fabriquer une micro-émulsion. En même temps, ça a permis de comprendre la physique statistique des surfaces fluctuantes, c'est-à-dire comment ces surfaces se mettent dans l'espace, pourquoi elles forment des phases bicontinues et quelles en sont leurs propriétés. Alors, revenons maintenant aux applications. Le temps que les fondamentalistes comprennent un petit peu ce qui se passe, on était quand même rendu au milieu des années 80, et au milieu des années 80, comme vous le voyez sur ce schéma-là, le prix du pétrole, lui, était revenu sagement autour de $15-20 le baril. Ce qui fait que l'intérêt d'appliquer ce type de technologie dans le monde du pétrole avait chuté à peu près à la même vitesse, même en général un petit peu plus vite, ce qui fait que les pétroliers n'étaient plus du tout intéressés par utiliser cette technologie pour faire une récupération qu'on avait appelée la récupération tertiaire du pétrole. Et donc l'application visée de départ, bien qu'on ait compris qu'on pouvait l'utiliser et qu'elle marchait, ne servait plus à rien. Par contre, d'autres applications ont pu être ainsi développées, qui sont maintenant des applications qui sont dans le domaine industriel. J'en cite quelques-unes. Je voudrais simplement remarquer, évidemment, pour le nettoyage des sols, c'est une application directe, mais aussi en pharmacie, où il y a des molécules qui sont formulées sous forme micro-émulsion pour le passage par voie orale. Je cite la cyclosporine, qui a un certain succès. Évidemment, dans le domaine des parfums, je donne un exemple très simple. Dans les pays du Maghreb, à cause du problème vis-à-vis de l'alcool, il faut faire des parfums sans alcool. Pour autant, vous ne voulez pas avoir un parfum qui est quelque chose qui est turbide, qui ressemble à du lait, vous voulez plutôt quelque chose qui soit transparent. Bien, les micro-émulsions répondent tout à fait à ce type de possibilités. Vous pouvez faire des mélanges transparents dans lesquels il y a du parfum et de l'eau, sans pour autant qu'il y ait d'alcool. Et c'est une partie du marché des pays du Maghreb dans le domaine des parfums. Bon, je ne reviens pas sur toutes les applications, il y en a un certain nombre, aucune n'est directement dans le pétrole. Alors reprenons maintenant du point de vue de ce que je viens de vous démontrer, ou expliquer, la démarche. Au départ, il y a une découverte accidentelle suivie d'une curiosité de laboratoire, c'est de la recherche fondamentale, il y a 15 personnes dans le monde qui s'y intéressent, ils sont très intéressés, très motivés, mais ça n'occupe qu'une fraction de l'intérêt des gens. C'est donc typiquement de la recherche fondamentale. Puis, le monde du pétrole découvre que ça peut leur être utile. Il y a une pression très très forte et beaucoup d'argent, il faut être clair, mis dans le domaine vers les fondamentalistes en leur disant « Travaillez plus, c'est des systèmes qui nous intéressent ». On est tout à fait dans le domaine de la recherche technologique. On a des obstacles à faire, on a des objectifs et pourtant on ne sait pas le faire. En passage, on découvre que ces systèmes qui n'intéressaient pas le monde des fondamentalistes pose des problèmes de physique fondamentale extrêmement intéressants. Le problème des surfaces fluctuantes et la physique qui y est liée, qui n'était absolument pas soupçonnée au début. Donc, les physiciens ou chimistes qui se sont lancés dans ce domaine-là parce qu'ils étaient, disons, poussés ou encouragés par le monde industriel, ont découvert que derrière cet intérêt industriel, il y avait en fait un très fort intérêt fondamental. On est revenu à la recherche fondamentale. Et puis enfin, les applications, il y en a un certain nombre qui en sont sorties, sont des applications qui sont, via du transfert de technologie, en dehors du domaine qui a motivé l'effort de recherche des années 80. Globalement, c'est un domaine qui a fait faire un progrès fantastique, à la fois dans le domaine industriel, à ce qu'on appelle la formulation, comment on mélange des produits, et en physique statistique, à la compréhension des surfaces et du comportement des surfaces fines dans le monde. Donc voyez quand même, sur cette histoire, comment, en fait, on passe de l'un à l'autre, ou plutôt comment on croit passer de l'un à l'autre, et en fait, on n'y passe pas, et il se passe des choses très souvent différentes de ce qui est vu au début. Alors, la dernière partie de ma conférence, je vais essayer de la faire relativement brève, j'ai je crois, à peu près 5-10 minutes, c'est sur quelque chose de, évidemment, dans le même type de science, mais qui a débouché sur des choses un peu différentes. Alors, le problème qui s'était posé à l'époque, c'était donc dans ces phases lamellaires. Donc, on revient à des phases où on met une molécule tensioactive dans de l'eau et vous faites des organisations lamellaires, couche par couche, où vous avez ces bicouches de tensioactifs ou de lipides qui sont séparées par un peu d'eau. Vous avez ici une photo de microscopie électronique qui vous illustre le caractère organisé de ces phases lamellaires. La question qu'on se posait à l'époque, c'était de savoir comment ces systèmes-là coulent. Ça ressemble à une pâte dentifrice, et vous posez la question, ben, ces systèmes, on a une certaine organisation, comment cette organisation évolue quand on coule? C'est une question purement fondamentale. La première chose qu'il a fallu faire, c'est de construire des outils d'observation. Parce qu'on savait regarder ces systèmes-là quand ils ne coulaient pas, par contre, on ne savait pas les regarder quand ils coulaient. Donc, on a commencé par faire en fait, de la recherche technologique, c'est-à-dire d'essayer de construire des outils spéciaux qui permettent de regarder les mêmes systèmes quand est-ce qu'ils coulent et comment ils coulent. Pour ça, on a utilisé toutes les techniques que l'on connaissait pour examiner la structure de la matière et on les a généralisées à des systèmes en train de couler et ça a donné toute une activité mise au point de cellules qui permettait de faire cette observation. Alors, je vous montre juste une cellule originale qui est la première que l'on a construite. Je crois que c'était Olivier Dia qui était en thèse à l'époque qui a construit cette cellule, qui est une cellule où, finalement, vous avez, c'est très très simple, vous avez deux cylindres. Il y en a un qui tourne, l'autre qui ne tourne pas. Vous mettez votre échantillon entre les deux cylindres, donc votre échantillon est forcé de couler. Et puis, vous faites un cylindre transparent et vous passez un faisceau laser à travers les parois transparentes. Vous mettez un écran, une caméra, et vous voyez ce qu'on appelle une figure de diffraction. Et cela vous donne des informations sur la structure à l'intérieur de votre échantillon à des échelles qui sont typiquement des échelles de l'ordre du micron. Alors, peu importe ce que vous voyez, on a vu un très bel anneau de diffraction qui nous a donné un certain nombre de renseignements. On peut aussi mettre un microscope. Le microscope vous donne que vous avez un changement, voyez, un système qui n'a pas été remué, qui n'a pas coulé, et un système qui est le même après qu'il est coulé. Vous voyez que vous avez des structures de défaut assez différentes. En fait, ce qui s'est passé, et c'est illustré ici par cette photo, ces photos de microscopie électronique, c'est que ce système lamellaire, lorsque vous le faites couler, se transforme dans des structures que l'on a appelées des structures en oignon, des structures qui sont des structures multilamellaires, qui sont très compactes et qui remplissent l'espace. Donc typiquement, votre système, quand vous essayez de le faire couler, il se casse en petits morceaux, et le morceau qui reste, là vous avez une coupe, eh bien c'est un système multilamellaire comme au départ, mais qui forme une sorte d'oignon. Alors il faut vous imaginer que vous avez une boîte de petits pois, vous retirez l'eau des petits pois, ils sont tous empilés les uns sur les autres, donc ils prennent ces formes un peu octaédriques, et ils restent pour autant multilamellaires au départ. Donc, essentiellement, le système, pour pouvoir couler, se casse en petits morceaux, et ces petits morceaux, ce sont ces oignons. On a pu remarquer que la taille de ces oignons changeait avec le taux de cisaillement. Plus ils coulaient vite, plus les oignons étaient petits. Donc, on peut comme ça régler la taille, qu'ils avaient d'ailleurs à peu près tous la même taille. Et on a pu montrer que, en fait, ils existaient, ces oignons, ces systèmes, cette instabilité, puisque c'en est une, existait uniquement lorsque l'on avait un certain taux de cisaillement, qu'avant et après, il se passait autre chose. Alors, on a pu comme ça montrer deux choses. Premièrement, qu'il y avait des transitions hors d'équilibre dans ces systèmes que l'on étudiait, qui sont pas tout à fait du domaine de la physique, mais aussi qu'il existait une phase d'oignon. Et éventuellement, je saute ce transparent qui n'a pas de propos particulièrement pertinent, et je passe directement à la suite, qui est justement, une fois qu'on a découvert ces structures en oignon, qu'est-ce que l'on peut en faire? Donc, l'idée, c'est que vous partez d'une phase lamellaire, vous la faites couler, vous faites des oignons. L'étape importante qu'il a fallu faire, c'est que ces oignons, vous pouvez ensuite les disperser dans l'eau. Et ils restent sous la forme d'oignons. Donc vous voyez qu'en fait, en partant d'une phase lamellaire, vous pouvez avoir comme ça une suspension de microcapsules qui sont des microcapsules multilamellaires qui ont été préparées en forçant l'écoulement d'une phase lamellaire. Et vous avez ici une photo de microscopie de ces petites capsules qui sont en suspension dans l'eau. Maintenant, si vous imaginez mettre dans la phase lamellaire au départ une molécule active, prenez par exemple de l'ADN dont on a parlé tout à l'heure, ou une protéine, ou une petite molécule qui peut servir à un médicament, vous voyez que la première étape qui consiste à fabriquer ces oignons en les forçant à s'écouler, les molécules se retrouvent réparties un peu partout, mais lorsque vous dispersez dans l'eau, éventuellement, les molécules restent à l'intérieur de ces particules multilamellaires et vous faites de la micro-encapsulation, c'est-à-dire vous avez ici décrit un procédé de micro-encapsulation qui vous permet de préparer des molécules protégées à l'intérieur d'un système multilamellaire en suspension dans l'eau. Alors, il est clair que cette procédé a des applications en chimie et en biologie. Il y a eu effectivement la création d'une société par quelqu'un qui s'appelle René Laversanne, qui a maintenant quitté le CNRS et qui est président directeur général de cette société, qui s'appelle Capsulis, et dont le but était de développer des produits autour de ce procédé lié à cette découverte fondamentale. Alors je vous donne juste deux ou trois exemples. Cette société a mis en collaboration avec Virbac, qui est une société vétérinaire, sur le marché des produits qui permettent de traiter des produits dermatos pour les animaux de compagnie, donc pour les chiens et les chats. C'est la gamme qui s'appelle Allerderm, je fais un tout petit peu de publicité. Et vous voyez ces capsules dans lesquelles sont mis un insecticide, un produit hydratant, quelque chose qui vient aider à soigner le poil de l'animal. Vous voyez ces capsules qui ont été pulvérisées sur le poil de l'animal et par une microscopie électronique, vous les retrouvez bien collées au poil. Après, bon, peu importe les précautions qui ont été prises, c'est une façon donc de vectoriser un produit actif sur le poil de l'animal par simple pulvérisation. Alors, il y a eu aussi une gamme faite dans le domaine des poissons. Alors, la raison pour les poissons, c'est que c'est très compliqué de soigner un poisson. Si un poisson a, par exemple, une blessure, c'est très difficile de sortir, de lui mettre un pansement et de le remettre dans l'eau. Vous rigolez, mais ça leur arrive aussi d'avoir des blessures. Alors, la gamme qui a été mise en place, c'est pour traiter les poissons. Alors, vous voyez ici deux poissons. Je ne sais pas comment ça rend, pas très très bien. Vous avez un poisson, vous avez deux poissons rouges, mais il y en a un qui est plus rouge que l'autre parce qu'on a mis dans les capsules un petit colorant en rouge pour essayer de montrer qu'effectivement, les capsules allaient se coller aux écailles du poisson. Donc vous avez un poisson non traité de ce côté-là et un poisson traité de l'autre côté. Et alors, si vous regardez d'un peu plus près, vous voyez qu'effectivement, il y a des zones très rouges qui viennent de l'appui, ou disons la concentration locale de capsules qui sont fixées sur les écailles du poisson. Alors ensuite, on peut faire un peu de microscopie électronique, vérifier que les capsules, vous les voyez ici, sont bien sur la peau du poisson et amènent, alors ici c'est un colorant, bien sûr dans la gamme, vous amenez un désinfectant, vous amenez le produit qui est nécessaire pour soigner le poisson. Alors, je reviens enfin à la thérapie génique, parce que, certes, les produits que je vous ai montrés sont des produits vétérinaires, mais vous pouvez, rappelez-vous, la problématique que l'on avait en thérapie génique, de se dire, on a un système cationique qui s'associe à un système négatif, qui forme des agrégats compacts, mais pourtant le problème, c'est que le fait qu'on parte avec des molécules cationiques, c'est embêtant, parce que c'est ce qui fait finalement échouer l'application in vivo. Alors, l'idée, avec cette même technologie, c'est d'utiliser, sans passer par des molécules cationiques, de fabriquer des virus artificiels. Pour ça, il faut partir d'une phase lamellaire dans laquelle on met l'ADN sans qu'il y ait pour autant de molécules cationiques. Donc on force l'ADN à venir rentrer dans cette phase lamellaire et on se sert pour ça des études de physique fondamentale qui ont été faites dans le cadre de la découverte que je vous ai dit de la structure des systèmes cationiques. Ensuite, vous faites vos oignons par cisaillement et vous vous retrouvez avec des systèmes où l'ADN est coincé dans un système multilamellaire qui ressemble à une sorte de petit virus, et pour autant sans être passé par des molécules cationiques. L'idée ensuite, c'est de mettre des cheveux, et qui plus est des cheveux qui ont des protéines qui permettent de cibler éventuellement un type cellulaire plutôt qu'un autre, et on fait des petits vecteurs qui ressemblent effectivement tout à fait à des virus synthétiques. Actuellement, je vous montre juste des résultats préliminaires, non pas dans le domaine de la thérapie génique, mais dans le cas, c'est avec des oligonucléotides, qui sont des petits fragments d'ADN. Alors, vous voyez ici des cellules qui ont été traitées avec des oignons. Alors, en rouge, on a coloré en rouge le côté phospholipide de l'oignon, donc les membranes. On a coloré en vert les molécules d'oligonucléotides. Et vous voyez que vous retrouvez, sur deux traitements séparés, le rouge à l'intérieur du cytoplasme et le vert à l'intérieur du noyau. Vous le voyez très bien sur ces systèmes qui ont été traités et regardés ensemble, où vous avez la partie du vecteur qui correspond aux membranes qui restent dans le cytoplasme et la partie qui correspond à l'oligonucléotide qui se retrouve dans le noyau des cellules, c'est-à-dire que votre vecteur a bien servi à faire passer cette molécule à l'intérieur du noyau et à laisser le véhicule à l'extérieur. Donc, c'est des résultats qui ont été obtenus dans le laboratoire de Claude Hélène au Muséum d'Histoire Naturelle. Donc, deux mots maintenant sur l'aréophysique. Au passage, je vous ai dit qu'on avait développé des outils de rhéophysique. On avait dû développer des outils qui permettent l'observation sous isolement des structures. L'idée, c'est qu'ayant développé ces outils pour nous, pour notre propre recherche, pour autant, ça peut être utile et intéressant pour d'autres. Et d'ailleurs, on avait des questions d'un certain nombre de collègues sur la possibilité de construire des outils pareils. On a donc fondé une société, et c'est un de mes anciens étudiants qui, ayant passé sa thèse, a fondé cette société, qui s'appelle Rhéocontrol, en 1998, dont le but est de fabriquer des appareils qui permettent de faire ce que l'on avait fait, nous, au laboratoire. Ils ont développé un appareil qui s'appelle le Rhéovisiomètre. Je fais encore un peu de publicité. Vous avez ici la version actuelle du Rhéovisiomètre, qui regroupe à l'intérieur l'ensemble des techniques que l'on avait préparées séparément. Vous pouvez faire de la diffusion de la lumière, de la microscopie, des mesures diélectriques sous cisaillement, tout en faisant de la rhéologie. Et c'est cet appareil-là qui, mais maintenant vendu en quelques exemplaires et qui, je l'espère, sera vendu un peu plus, résulte des travaux que l'on avait développés maintenant il y a plus de 10 ans pour mettre au point ces systèmes. Alors, je finis par le retour sur la démarche. On s'était posé une question très fondamentale sur comment est-ce que les phases lamellaires coulaient. C'est de la recherche fondamentale. Il a fallu mettre des outils nouveaux en place. C'est évidemment de la recherche technologique. On a découvert une instabilité lamellaire oignon. C'est le résultat de nos recherches fondamentales. Ça a donné un procédé de fabrication de microcapsules. C'est un transfert de technologie vers une société qui fait de la microencapsulation. Pour autant, la physique qui se pose sur la découverte de l'instabilité lamellaire oignon reste dans le domaine du fondamental et tout un tas de problèmes liés à la dynamique de ces systèmes sont loin d'être compris. Les outils que l'on avait développés au début ont donné une autre société qui s'appelle Rhéocontrol via évidemment un transfert de technologie. Ces outils, qui sont des outils nouveaux que tout le monde peut utiliser, sont utilisés sur d'autres systèmes aussi pour faire de la recherche fondamentale. Donc vous voyez évidemment, c'est sur cet exemple-là que les choses sont le plus emmêlées. Vous voyez bien que par rapport aux propos qui consistent à dire on fait l'un après l'autre, vous avez un mélange avec tous les ordres possibles et imaginables entre recherche fondamentale, recherche technologique et transfert de technologie. J'avais quelques conclusions, mais je pense ne pas les passer, et je vous remercie pour votre attention.
Vous allez nous les donner pendant les questions. Monsieur, descendez là. Attendez, on va vous donner un micro. Allez-y. Signalez-vous pour les questions.
On serait intéressé sur le plan économique que vous puissiez nous donner vos vues personnelles pour améliorer les circuits, alors industrie, recherche fondamentale en France, sachant que par ailleurs, on sait qu'en Europe, les budgets de recherche sont bien inférieurs à ceux des États-Unis et du Japon en particulier.
Oui, je vais d'abord faire une remarque. Le message que j'ai essayé de faire passer, finalement, ce n'est pas un message économique, je peux revenir sur le point économique si vous le voulez plus tard, mais c'est un message de démarche intellectuelle. Je crois que l'un des gros problèmes du transfert de technologie, c'est les blocages intellectuels des uns et des autres à tous les niveaux. Mon propos, c'est de démontrer qu'on ne peut pas se cloisonner dans un domaine donné, fondamental, technologique ou spécialiste du transfert de technologie, et qu'une grande partie de la valeur ajoutée vient du mélange des genres et vient du fait que le chercheur fondamentaliste se préoccupe, même s'il ne le fait pas lui-même, aussi du transfert de technologie et de la recherche technologique, et bien évidemment inversement. Donc le premier propos, c'est de se dire, on ne peut pas, quand on est scientifique, croire que l'on peut, à un moment donné, s'isoler de l'ensemble du processus qui conduit à un produit sur le marché. Ça ne veut pas dire que chaque chercheur fondamentaliste doit réfléchir à quel produit lui-même mettra sur le marché, bien évidemment. Mais ça veut dire qu'il y a un constant aller-retour, donc un besoin au moins d'information. Il faut qu'il soit au courant quels sont les processus et comment ça marche. Alors, d'un point de vue économique, alors effectivement, mettre de l'argent à certaines étapes du transfert de technologie, c'est important. Je prends le cas, par exemple, de la recherche technologique. En France, on est historiquement très mauvais en recherche technologique. Pourquoi ? En particulier par rapport aux Allemands. Eh bien, parce que même quand on en fait, et on fait de la recherche technologique en France, le côté recherche technologique est vécu par les organismes comme par les chercheurs comme quelque chose de péjoratif. Donc, même si on en fait, personne ne veut dire que l'on en fait. Et alors qu'en Allemagne, vous avez des grands instituts qui n'ont pas honte d'afficher que ce sont des instituts de recherche technologique, et qui d'ailleurs font de la recherche fondamentale pour ça, je crois qu'avant tout, il faut faire évoluer l'image de la recherche technologique par rapport à la recherche fondamentale. La recherche technologique, c'est aussi de la recherche fondamentale. Le fait que ce soit appliqué ou vis-à-vis d'un but précis n'ôte pas, et je l'ai montré, je pense, dans quelques exemples, le fait que pour y arriver, la recherche qu'il faut faire est tout à fait aussi fondamentale que la recherche dite fondamentale. Donc ça veut dire qu'il faut essayer d'aider, si on parle de l'économie, tous les systèmes d'interface, et surtout essayer d'aider les gens à sortir de leur position actuelle en disant ben, « moi je fais cette partie-là ou cette partie-ci du travail ». Il faut aller voir ailleurs, regarder ce qui... Il faut qu'ils soient incités à le faire. Et de ce point de vue-là, je suis assez inquiet de ce qui a été proposé au ministère de faire un centre national de recherche technologique, parce que je pense que ça va avoir l'effet totalement contraire à ça. C'est-à-dire que c'est quand il manque quelque chose, il ne faut pas le créer de toutes pièces. Il faut forcer ce qui existe à se mettre au milieu quand il y a quelque chose qui manque. Ce n'est pas en remplissant le trou que l'on résout tous les problèmes. Mais bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, j'ai fait passer une partie de ma conclusion.
Monsieur.
Oui, monsieur, deux questions rapides. La première de linguistique, que veut dire le préfixe réo dans réophysique ? Et la deuxième, en matière de physique et chimie des matières molles, est-ce qu'il y a quelque chose qui chemine actuellement pour traiter très directement le problème des plages souillées, par exemple ?
Le problème des ?
Des plages souillées par le pétrole.
Des plages souillées par le pétrole, bon. Alors, réo, c'est comme réomètre, c'est comme réologie. Ça vient, alors je ne sais, malheureusement, ma culture latine ou grecque, dans ce cas-là, est probablement très insuffisante, mais ça a la même racine, je pense que ça veut dire d'une certaine façon couler. Mais je ne suis pas sûr, est-ce qu'il y a un linguiste plus... Voilà, c'est du grec et ça veut dire couler. Voilà, j'extrapole, vous voyez, j'ai jamais fait de grec, j'ai fait un peu de latin, mais j'étais un très mauvais élève. Par contre, sur les plages souillées, oui, alors, certaines des techniques de dépollution des plages mettent en jeu des micro-émulsions, certaines, et résultent des recherches qui ont été faites dans les années 80. Alors, est-ce que c'est la technique miracle qui répond à tout ? Pas toujours, parce que vous savez qu'il y a dans les plages, vous avez des problèmes de viscosité du bitume, et évidemment, il n'y a pas que le problème de le dissoudre, il y a aussi le problème de le mettre en... d'arriver à effectivement l'atteindre et qu'il sorte de cette presque notion de pierre. Mais il est clair que les recherches qui ont été faites dans les années 80 pour sortir le pétrole des roches, en particulier les pétroles très lourds comme au Venezuela, il y a eu beaucoup de recherches faites sur essayer de les mobiliser, de les mettre en solution, et bien ces recherches-là ont donné des résultats sur la dépollution des plages pour des raisons qui sont évidentes.
Monsieur.
Oui, je vais. Vous avez déjà répondu par avance à la première question. Je vais seulement essayer de vous pousser un peu dans le retranchement. D'où vient ce complexe de la recherche technologique que vous venez de souligner pour la France ? Je ne sais pas d'où ça peut venir. Deuxième question, couramment ou en économie, quand on parle de transfert de technologie, on pense dans les rapports Nord-Sud. Apparemment, vous n'avez pas dit un mot où est le malentendu ou l'hiatus.
Merci. Alors, oui, effectivement, pour répondre à la deuxième partie d'abord, effectivement, j'ai dit au début que derrière transfert de technologie, on pouvait mettre beaucoup de choses et qu'il était hors de question que j'aborde l'ensemble des problèmes liés au transfert de technologie. Le second problème que vous abordez, qui est un problème tout à fait important, c'est celui de transférer des technologies, disons, matures dans le monde occidental, dans des pays qui en ont un furieux besoin. Je prends un exemple. Si en Afrique, on pouvait fabriquer avec des coûts raisonnables, sans payer les droits de licence, des molécules anti-sida, donc des inhibiteurs de protéases, eh bien, il est clair que personne ne nie l'intérêt extrêmement important qu'il y ait. Et il y a eu toute une bataille, d'ailleurs, sur le fait que est-ce qu'il ne faudrait pas qu'en Afrique, on fabrique des inhibiteurs de protéases en ayant une licence gratuite pour ne pas payer les coûts qui sont à payer aux organismes qui détiennent les droits industriels, parce qu'il y avait une urgence sanitaire énorme. Vous savez que les grandes entreprises ont refusé de faire ça et qu'elles ont préféré une autre solution mais c'est cette pression-là qui les a amenés à trouver cette solution, qui est de mettre sur le marché, dans une certaine mesure, à des coûts très très inférieurs à ce qui est dans le marché occidental, les mêmes molécules, tout en gardant le contrôle de la technologie. Donc vous voyez que derrière ce transfert de technologie, il y a des problèmes économiques, et que le choix, c'était on ne fait pas de transfert de technologie, on garde la technologie, mais par contre, on cède, entre guillemets, sous la pression, sur le fait que pour ce marché-là, on fait des coûts qui sont relativement inférieurs. Donc vous voyez que le transfert de technologie est un enjeu économique fort. Pourquoi ne l'ont-ils pas le fait? Parce que, très clairement, transférant en Afrique cette technologie, ils avaient peur que reviennent ensuite en Europe des médicaments fabriqués en Afrique à des entre guillemets, coûts moindres que ceux sur lesquels avaient dans les pays occidentaux. Donc, évidemment, ce n'était pas le propos de ma conférence, comme vous l'avez vu, ça pourrait être le propos d'autres conférences, je ne pense pas être la personne la mieux placée pour le faire, mais je suis tout à fait d'accord avec vous que derrière le transfert de technologie, il y a aussi le problème des transferts de technologie matures vis-à-vis de marchés ou de pays qui en ont un furieux besoin. Donc, c'est une très bonne question. Alors, j'ai dû oublier la première partie de votre question qui était sur pourquoi les chercheurs avaient un côté négatif sur la recherche technologique. Bon, il n'y a pas d'explication, mais je veux dire, en France, on est un pays d'intellectuels. Donc, les gens ont une tendance à penser que la recherche technologique, c'est moins noble que la recherche fondamentale. C'est une erreur profonde. C'est un problème de culture. Moi, je n'ai pas d'explication générale. Je le déplore, mais c'est malheureusement, quand vous parlez à des chercheurs, si vous le parlez chercheurs technologiques... Moi, je connais à Bordeaux des équipes qui font de la recherche technologique qui ne veulent pas s'appeler une équipe de recherche technologique. Ils refusent le label parce que c'est négatif. C'est comme ça. Il faut aller voir ce qu'ils ont dans leur tête.
Monsieur,
s'il vous plaît, j'ai deux questions. Premièrement, l'expression transfert technologique, c'est la première fois que je la rencontrais et j'étais un peu surpris parce que je me serais plutôt attendu à une expression du genre application industrielle. Donc j'aurais voulu que vous expliquiez un peu la différence qui peut y avoir entre ces deux expressions et pourquoi celle que vous avez employée est plus adaptée. Et l'autre question, c'est entre cette triade recherche fondamentale, recherche technologique, recherche et transfert technologique, il peut y avoir un déséquilibre, c'est-à-dire qu'une s'active plus qu'une autre. Et alors, je voudrais savoir pour quelles raisons il pourrait y avoir un tel déséquilibre, à la fois humain et financier, et comment on peut y remédier.
Alors, d'abord, application industrielle et transfert de technologie, je n'irai pas me battre sur un long discours pour faire des différences. Je veux dire, ce que essentiellement j'ai en tête, c'est le fait que à un moment donné, vous avez un certain nombre de connaissances, vous avez fait un effort. Je reprends le cas des appareils de rhéophysique. Ces appareils sont des appareils de laboratoire. Vous avez fait des cellules séparées, vous avez bricolé des choses. Aucun de ces appareils n'est un appareil fiable que vous pouvez vendre sur le marché. Pour pouvoir en faire un appareil fiable que vous vendez sur le marché, il faut faire un transfert de technologie. C'est-à-dire qu'il faut que de cet appareil pilote laboratoire, vous en fassiez un appareil industriel fiable. A priori, ça paraît très facile. En fait, c'est très très compliqué. C'est très compliqué parce que tout un tas de problèmes que vous n'avez pas abordés quand vous avez fabriqué votre prototype doivent être abordés lorsque vous voulez en faire un appareil industriel qui sera utilisé au fin fond de l'Arizona par une équipe qui, par ailleurs, ne l'a pas développé. Donc, derrière transfert de technologie, c'est faire passer la base de ce qui a été acquis dans le domaine de la recherche technologique ou de la recherche fondamentale, mais pour autant l'adapter aux besoins du produit, aux besoins du marché et au produit lui-même. Et ça, c'est un travail qui est d'une grande difficulté. Donc, derrière chacun des mots, il y a en fait des innovations, du travail, de la réflexion et évidemment des coûts. Il ne suffit pas d'avoir fait quelque chose qui marche dans un laboratoire pour que brutalement ça devienne quelque chose d'universel. Et cette étape-là, eh bien, elle coûte quelquefois très cher, quelquefois moins cher. Alors, donc ça, c'est pour la partie. Alors, la partie, oui. Alors, c'est vrai qu'en fonction des masses d'argent que vous mettez à différents niveaux, eh bien, les succès ou les échecs peuvent être importants. Alors, clairement, dans l'idée des gens, si vous allez dans une progression vers le monde industriel, Plus vous vous approchez du produit final, donc plus vous allez vers le produit qui sera vendu sur le marché, plus les coûts augmentent pour faire les étapes. Donc dans une étape entre recherche fondamentale, recherche technologique et application industrielle ou transfert de technologie, c'est clair que c'est la dernière étape, celle qui correspond à la mise sur le marché, qui coûtera de loin le plus cher. Ceci dit, cette étape ne peut être faite que dans le domaine avec des industriels, à but industriel. Ce qui est beaucoup plus ouvert et beaucoup moins clair dans l'esprit des gens, c'est la partie recherche technologique. Si vous demandez à un certain nombre de personnes ce qu'ils appellent recherche technologique, une définition peut être, dès que je fais de la recherche avec des industriels, je fais de la recherche technologique, ce qui, à mon avis, est une très mauvaise définition. Je pense que la recherche technologique, c'est la recherche aussi fondamentale que la recherche fondamentale, et il n'est pas anormal qu'elle puisse être soutenue, et même fortement soutenue, par les pouvoirs publics. Bien qu'effectivement, elle puisse, dans certains cas, pas toujours, mais elle puisse, dans certains cas, coûter plus cher que certaines parties de la recherche fondamentale. Donc, le débat que vous posez au niveau économique, la solution, c'est effectivement faire attention à ce qu'on fasse de la recherche technologique de haut niveau, avec les moyens suffisants, parce que, lorsque vous travaillez, par exemple, sur des nouveaux procédés de mélange ou sur des nouveaux procédés dans des domaines industriels, eh bien, il vous faut des pilotes, il faut construire des machines qui coûtent cher, et les sommes mises en jeu dans ces machines sont infiniment supérieures aux sommes mises en jeu dans des appareils de laboratoire classiques. Donc ça peut coûter beaucoup plus cher de faire de la recherche technologique dans certains domaines, pas partout, que de la recherche fondamentale. Mais déjà en recherche fondamentale, il est clair que si vous vous intéressez à la physique des particules et que votre outil, c'est des outils du type de ce qui existe à Genève au CERN, ça ne coûte pas tout à fait le même prix que si vous faites, comme je vous l'ai montré, vous mettez du savon dans l'eau et vous envoyez un faisceau laser à travers. Donc déjà, dans le monde de la recherche fondamentale, vous avez des différences de coûts très importantes. Reste à savoir ce que la société veut et là où on veut dépenser de l'argent. Je ne parle pas évidemment de la recherche dans le domaine spatial, où là aussi les coûts peuvent être élevés. Donc,
Deux dernières questions, monsieur et monsieur.
Comment informer les industriels sur la recherche fondamentale puisqu'il y a une imprédictibilité des applications industrielles? On peut penser à la pénicilline, le radium, etc.
Alors, c'est une très bonne question. Le monde industriel n'a pas de vision de ce qu'est la recherche fondamentale, si ce n'est une vision en disant ben, c'est des gens qui font des choses qui peut-être un jour nous serviront. Ça, c'est la vision très positive. Je ne suis pas sûr qu'ils l'aient tous. Mais c'est la vision très positive d'un industriel en se disant ben oui, il faut bien qu'il y en ait parce que ça me servira peut-être un jour, sans avoir du tout de vision comment il peut l'utiliser. Je pense que c'est au cas par cas, c'est-à-dire que là encore, l'industriel réagira sur des exemples. C'est-à-dire que je crois que c'est en prenant des exemples et en lui montrant que dans certains cas, effectivement, cet aller-retour entre recherche fondamentale et application a permis à certains domaines de se développer dans le passé, que l'on peut justifier une recherche fondamentale qui, elle, au départ, n'est pas appliquée ou n'est pas dirigée dans un but donné. Je veux dire, l'histoire des micro-émissions le montre bien, les applications qui en sortent ne sont pas celles sur lesquelles les industriels ont axé leurs efforts. Donc, cette notion que quand vous faites de la recherche, les résultats ne sont pas là où vous avez cherché est une évidence pour les gens qui font de la recherche. C'est beaucoup moins clair pour un industriel, mais il suffit de lui démontrer sur des exemples que c'est comme ça que ça se passe. Et que quand on cherche dans un domaine, le domaine généralement fait des progrès. Il ne le fait peut-être pas là où on l'attend, mais il en fait de toute façon. Et je crois que c'est le meilleur argument qu'on peut leur donner, mais sur des exemples, parce que ce sont des gens très pragmatiques. Et ce n'est pas une question de discours, c'est une question de réalité.
Dernière question, monsieur.
Oui. Moi, je ne suis pas chimiste ni physicien. Donc, dans le texte d'introduction, les transferts de technologie, avec votre nom, monsieur Didier Roux, il est normal que nous soyons partis sur des problèmes concernant la chimie, la physique, et même en allant jusqu'au bout, après les dernières démarches et dernières découvertes, sur des produits d'entretien ou même concernant les produits de beauté. Mais si on oublie complètement le départ physique et chimie, deux choses m'ont paru très très importantes chez vous, c'est de lutter contre ces blocages en demandant aux chercheurs de sortir un peu de leur bulle et quelquefois même d'aider les autres à utiliser leurs recherches. Bon, j'ai une formation très très différente, mais j'ai eu, il y a une vingtaine d'années, si vous voulez, à résoudre des problèmes qu'une administration avait dans sa compétence, c'est-à-dire l'aménagement du territoire, avec un problème qui n'est toujours pas résolu, mettre des tours pour loger des gens, puis maintenant on les démolit. Donc en une quarantaine d'années, on a remarqué que les problèmes et les solutions avaient été vus par un même ministère, et que dès qu'on met d'autres problèmes, d'autres compétences dans le coup, on peut peut-être arriver à modifier le jugement des gens, ce que j'appelle en principe de précaution, un peu en avant, si vous voulez. Alors, il m'est arrivé, moi, de faire un tout petit rapport qui s'appelait la greffe urbaine, en prenant comme exemple la greffe végétale et en disant qu'est-ce qu'on fait avec une greffe végétale. C'est de chercher un greffon et de créer un support adapté à ce greffon. Et j'en ai fait des exemples d'aménagement qui devenaient des programmes d'aménagement dans des zones qui n'étaient pas faites du tout pour recevoir ces programmes, et de modifier les programmes. Et comme généralement les greffes dans le végétal, si vous voulez, ont besoin d'une sève qui passe vers la sève élaborée, j'ai cherché ce que pouvait être en greffe urbaine cette sève élaborée, et je me suis dit, c'est peut-être les habitants. Le rapport est resté pendant 10 ans dans les tiroirs du ministère, et un jour, je ne cite pas ce ministère, mais il ne restait plus que la première et la dernière page, mais dans un petit bureau du ministère, c'est créé sur 100 exemples en France des financements de greffe. Mais il paraît qu'on n'avait jamais trouvé mon rapport. Et ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que les gens qui ont recherché à la suite pendant 4 ans de financement avaient complètement oublié, paraît-il, si vous voulez, que les habitants n'étaient pas forcément des élus, mais qu'il y avait des décisions qui étaient prises en haut lieu à partir d'exemples recherchés pour résoudre certains problèmes. Alors, bon, j'ai eu d'autres
démarches. Est-ce que je peux vous demander si vous avez une question ou si c'est une...
Non, mais
une illustration.
Juste pour aller dans le même sens, je crois que ce que vous voulez dire, et j'ai une autre formule que la vôtre, c'est ce que j'appelle la valeur de l'exemple. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut faire bouger les choses, il faut que quelqu'un le fasse quelque part, que ça réussisse, et à ce moment-là, éventuellement, les choses évoluent. Voilà. Mais je crois que c'est tout à fait la démarche que vous essayez de prôner.
Je vous disais qu'il serait peut-être intéressant que ce même traitement de transfert de technologie, si vous voulez,
dans d'autres
différents, de technologies beaucoup plus différentes, de
façon à faire
développer chez l'ensemble des gens qui sont ici des lectures.
Oui, tout à fait. Je vous remercie, c'est très tout à fait juste.
Oui, c'est très...